Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission Ouvrons le débat qui chaque mois vous propose un thème de réflexion en général sur un sujet d'actualité chrétienne. Et nous avons choisi ce mois-ci de vous parler du patrimoine religieux et de la préservation du patrimoine. Pour ce débat autour de la table, Madame Félicité Lagier, qui est responsable du Centre du Vitrail et l'École du Patrimoine, qui est guide conférencière à la cathédrale de Chartres, et surtout membre du jury du Grand Prix du Pèlerin du Patrimoine, et vice-présidente des Amis de l'Abbaye de Josaphat. Nous avons aussi M. Hervé Fougeron, paroissien de Janville-Toury, qui représente l'association Rencontre pour le patrimoine religieux, qui s'est donné pour mission de faire connaître la richesse du patrimoine religieux français. Et M. Dominique de Tilly, de la paroisse de Bonneval, qui représente lui-même un riche patrimoine familial chartrais. Nous abordons donc notre troisième et dernière partie de débat et je voudrais mettre cette semaine plus l'accent sur les enjeux spirituels. C'est un peu se poser la question, préserver le patrimoine, ça n'est finalement pas à mon sens qu'une question de curiosité intellectuelle ou même d'amour de l'art, c'est d'abord une question de transmission de la foi chrétienne.
De notre identité.
Et de notre identité, avec ces fameuses racines historiques, parce qu'on n'a pas une identité qui vient de rien, donc il faut bien... Alors, quel est, justement, à votre avis, le rôle du patrimoine ? Alors, cathédrale, c'est peut-être plus évident, mais même dans les petites paroisses, est-ce qu'il est utilisé pour catéchiser les enfants, par exemple ?
Je pense que ça dépend évidemment de la richesse de l'Église. Vous avez des églises locales qui ont des choses absolument magnifiques et qui sont parlantes. C'est sûr que quand vous avez une belle église romane dont tous les chapiteaux des piliers sont sculptés, vous pouvez faire plusieurs séances de catéchèse et d'initiation à l'évangile et à la foi beaucoup plus facilement que quand vous êtes dans une église du début du XXe siècle, qui a un petit peu moins d'intérêt, surtout s'il n'y a pas pour accompagner quelques tableaux ou quelques statues.
Mais quand même dans les villages, il y a partout des tableaux, si ? Non, vous avez vraiment vu des églises où il n'y a plus rien ?
Il n'y a pas toujours des tableaux ou il n'y a pas forcément des tableaux qui aient un grand intérêt. Quand vous avez un tableau qui représente l'Assomption, on peut en parler. Bon. Quand vous avez un tableau qui représente un vénérable saint évêque de je ne sais où, à une époque un peu indéterminée, c'est un peu plus difficile, si vous voulez, pour transmettre quelque chose.
Ça oblige, il faut justement faire chercher. Voilà,
donc je pense que c'est un peu fonction des opportunités. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble, y compris dans des petits villages, l'ensemble de notre patrimoine religieux est absolument considérable et d'une très très grande richesse. Et qu'il y a des petites églises, j'ai eu l'occasion dans le Haut-Allier l'année dernière de faire pendant 8 jours un circuit. On a vu chaque jour merveille sur merveille. Et quelque chose de très modeste, mais d'absolument magnifique, de pureté des lignes, d'élégance, d'équilibre dans les volumes, tout ça situé, perché à des endroits magnifiquement choisis. Enfin, le patrimoine religieux en France, c'est d'abord quelque chose de considérable parce que c'est présent dans pratiquement toutes les communes, et c'est ensuite quelque chose d'une très très grande qualité. Et même pour un non-croyant, c'est quelque chose
de
beau.
C'est vrai que certains petits bijoux dans la nature portent à la prière sans qu'on s'y attende, simplement parce que le lieu est parfait.
Je pense qu'il faut juger l'art religieux à l'aune des 3 éléments que nous a donné Grégoire le Grand en définition, l'art l'art dans les églises. Il a dit qu'il faut d'abord que l'art enseigne, qu'il nous aide à mémoriser et ensuite qu'il suscite de l'émotion ou de la compréhension. Donc si une œuvre d'art moderne satisfait à ces trois critères, c'est bien. Si l'art peut enseigner, s'il nous aide à nous remémoriser des événements et s'il suscite en nous une émotion, c'est bon. Et à ce titre-là, ce riche patrimoine religieux dont a parlé Hervé Fougeran, il est à ce titre indispensable pour mémoriser notre passé, pour mémoriser et rappeler constamment la religion chrétienne et pour susciter l'émotion. Et cela marche sur les enfants, ça marche aussi sur des adultes, qu'ils soient croyants ou pas. Et si nous gardons cette identité forte, nous sommes forts aussi pour accueillir d'autres communautés, d'autres religions. Il faut que nous soyons forts dans notre foi. Et comme cela, nous pouvons vivre avec des gens qui ont une autre foi, parce que je pense qu'on va aborder le sujet.
Ah, mais si vous voulez, pas parce que vous
voulez. Abordez... Je ne sais pas moi qui voulais l'aborder,
mais je me posais la question de certaines églises à l'abandon dont on propose de faire des mosquées. Ça a déclenché une conscience.
C'était très important que cette question soit posée parce qu'elle a fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'ils ont laissé périr les églises. Et ils se rendent compte aujourd'hui qu'il est question ou bien de les vendre à des communautés qui vont les fermer à eux. Parce qu'après, il y a incompatibilité. Malheureusement, ce n'est pas comme au XVIe siècle où les protestants et les catholiques se partageaient les églises. Les catholiques dans le cœur, les protestants, la nef. Il y avait une possibilité à Heidelberg, c'était ça, l'église du Saint-Esprit, elle était partagée en deux. Il y a d'autres cultes qui ne permettent pas un parallélisme. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce que nous voulons?
Ils ne peuvent pas prendre, s'il y a des vitraux figuratifs, ils ne peuvent pas. Ou alors ils doivent enlever les vitraux.
Oui, il les cache. C'est ce qui a été fait depuis que l'Hagia Sophia à Constantinople est devenue une mosquée, un musée. Ça a préservé cette énorme bâtisse. Je peux vous dire, les Turcs ils font un effort extraordinaire pour garder cette église en l'état. Hein. C'est un monument exceptionnel. Ça n'existe pas deux fois. Et c'est eux qui préservent cette église. Alors maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez faire des églises? Vous préférez qu'elles tombent en ruine? Vous voulez faire un effort financier? Ou vous voulez laisser peut-être à des communautés qui ont besoin d'un lieu les laisser préserver,
peut-être pour des futures générations.
Mais oui, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a incompatibilité. Si vous voulez garder les églises, chers auditeurs, faites un effort, c'est à vous. Une seule personne peut avoir un esprit d'initiative qui préserve un édifice, parce que vous créez une dynamique. Le séminaire des Barbelés à Chartres a été sauvegardé par Hubert Briand, qui a dit qu'il faut stopper la destruction de ce lieu. Et aujourd'hui, la fresque est restaurée, entre autres avec la subvention du Pellara Magazine, j'y reviens, le Grand Prix. Donc, si vous avez dans votre église une œuvre d'art, si vous voulez garder votre église, faites le dossier du Pellara Magazine, ils vont donner une subvention, vous demandez au conseil départemental, vous aurez des subventions. Mais il faut que vous apportiez vous-même déjà votre travail et il faut collecter aussi des fonds.
Oui, mais vous oubliez que le problème n'est pas une histoire d'argent, c'est le problème de la foi. S'il n'y a plus assez de chrétiens pour habiter les églises et qu'il y a par contre beaucoup de musulmans qui ont besoin de lieux de prière, la responsabilité n'est pas forcément financière, elle est d'abord spirituelle. Est-ce qu'on va garder un bâtiment pour trois personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être 500 musulmans qui ont besoin d'un lieu.
C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On peut imaginer qu'une église qui n'a plus d'utilité, malheureusement, parce que la pratique a disparu du village où elle est bâtie, soit convertie en un lieu où on continue de prier le Dieu unique. Parce que finalement, les musulmans croient dans le même Dieu que nous et le prient. Donc là-dessus, je pense que...
C'est à réfléchir quand même.
L'esprit, oui, n'est pas forcément choqué. Ce qui fait un petit peu plus réfléchir, c'est qu'il semble que pour une pratique sincère de l'islam... il faille vraiment que le prosélytisme emploie de grands moyens pour arriver à convertir le reste de l'humanité. Alors, se dire offrir une église...
Il ne s'agit pas d'offrir.
Non, vendre.
laisser une autre religion...
Oui, une question morale, s'il y a de la violence qui s'installe derrière.
Devenir propriété... devenir propriété d'une autre religion qui peut, à un moment, manifester des gestes...
De la virulence.
Voilà, au moins
inamicaux. Il faut qu'il y ait au moins un accord consensuel entre les deux religions.
Je pense.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Ouvrons le débat et nous parlons du patrimoine religieux français et de sa préservation. Alors, mais bon, moi ce qui me tracasse, dont on a parlé juste avant la pause, c'est quand même les églises se vident. Et comment est-ce qu'on pourrait faire renaître la foi chrétienne en se servant du patrimoine ?
Alors sur le site du patrimoine religieux, il y a le recensement de 4 églises qui ont déjà été mises à disposition de communautés musulmanes. Ça se passe très bien, apparemment, quand les bâtisses sont dépouillées. Quand il y a
oui,
pas
les
trop
bâtiments
de
modernes,
les bâtiments modernes,
où il n'y a pas d'histoire religieuse.
Ça fait, voilà, il le rappelle, à la chapelle Saint-Joseph de Clermont-Ferrand, ça fait 30 ans que la communauté musulmane de la ville, elle a juste camouflé les symboles chrétiens, et ils sont dedans, et ça se passe apparemment très bien. Et c'est aussi une question d'acceptation. Donc il y a des églises qui se prêtent à cette cessation. Qui se prêtent, ce sont des églises modernes très dépouillées,
oui,
et puis il faut peut-être mobiliser tous nos efforts pour garder les églises romanes, gothiques et néo-gothiques. Le 19e siècle a fait des merveilles. Le christianisme n'est pas une religion de prosélytisme. Si nous voulons re-christianiser notre société, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, vous êtes bien placés pour le savoir comment il faut faire. C'est la prière. Et la meilleure prière, c'est le chapelet. Le chapelet, voilà. Au Japon, le christianisme s'est maintenu en l'absence de tout missionnaire pendant 200 ans parce qu'ils se sont baptisés réciproquement et ils ont gardé le chapelet. Donc si nous voulons que notre société connaisse un regain de christianisme, c'est à nous, à chacun, de faire le nécessaire. Ce n'est pas à taper sur les autres, c'est à prier d'abord. Et après, les problèmes vont se résoudre parce qu'il y a l'assistance divine. Enfin, j'espère.
Il n'y a pas que la prière, il y a aussi la connaissance de sa propre religion.
C'est à l'Église de faire son travail
aussi. Non, mais on peut se servir du patrimoine pour développer la connaissance.
Bien sûr.
Et je me demande si ce n'est pas quelque chose à développer. De faire non pas des visites pour des touristes étrangers, mais des visites pour réinvestir la connaissance de sa religion.
Et dans le même but, justement, je crois qu'il faut peut-être développer la partie un peu philosophique. Il n'y a pas que la prière est très importante, bien sûr, comme vient de dire Mme Lagier, mais je crois qu'il faut aussi peut-être qu'on se développe un peu plus au niveau culturel sur la philosophie. Il y a d'excellents actuellement philosophes chrétiens, je peux en citer déjà deux qui me sautent à l'esprit. Il y a Bertrand Vergely, d'une part, qui vient d'écrire un livre très intéressant, « La tentation de l'homme-dieu », parce que maintenant, on estime qu'on n'a plus besoin de la religion, mais que c'est l'homme qui devient son propre dieu. Et il y a également celui qui était cité dans « Famille chrétienne » récemment, dans le dernier « Famille chrétienne », où on voit un débat entre Philippe de Villiers et Bellamy. Bellamy est un philosophe chrétien contemporain, très intéressant. Et je crois que, si Mme Mann me permet, on peut peut-être, fin, en conclusion... citer quand même ce qu'il écrit dans son dernier livre « Les déshérités », hein, François-Xavier Bellamy, ou « L'urgence de transmettre ». Ça fait partie tout à fait de la transmission du patrimoine chrétien. Et il dit notamment « Quand aurons-nous l'humilité de nous découvrir héritiers de ce trésor qu'est la culture qui nous précède, mûri pour nous pendant des millénaires par le travail des hommes marchant vers leur propre humanité. Et ce trésor, quand l'offrirons-nous à nos enfants, augmenté pour eux de notre propre effort ? Il n'est pas de plus urgente ni de plus belle mission que de transmettre l'héritage culturel qui peut seul constituer pour l'avenir l'unité de notre pays, en même temps que la liberté de ceux qui y vivront. Je ne crains pas le choc des cultures, mais le choc des incultures. » Et je crois que c'est très important de se former au niveau philosophique et culturel pour que...
Et théologique, vous citez le philosophe, mais il faut aussi connaître la théologie chrétienne, ça peut aider à tenir bon face aux autres théologies.
Pour transmettre les valeurs, les vraies
valeurs.
C'est
excellent de citer ces deux ouvrages, de citer ce passage, le choc des incultures, c'est magnifique, je préfère que le choc des cultures. Et puis le service accueil-visite de la cathédrale, justement, avec les bénévoles qui font des visites, contribuent justement à la connaissance de ce patrimoine. Rendons hommage, effectivement, à tous ces bénévoles qui transmettent ce savoir.
Tout à fait.
Est-ce qu'ils ont une formation théologique, justement, aussi, ou c'est seulement artistique ? Quelle est la formation ?
Je pense qu'il y a les deux, sans doute. Elle est d'abord artistique, je pense, mais il faudrait demander aux responsables.
Malheureusement, Nous espérions avoir le responsable, mesdames et messieurs, pour ces débats. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible. Donc nous avons fait sans ce précieux apport, mais ça s'est très bien passé quand même. On n'a pas encore fini parce que vous me répondez sur le fait quand aurons-nous le courage, quand aurons-nous le temps. Moi, je vous dis comment.
Je suis frappé. J'ai lu à plusieurs reprises, sous la plume d'évêques ou de théologiens récemment, le fait que l'Église catholique n'était plus aujourd'hui une Église du nombre. Nous sommes, nous, en tout cas dans nos pays européens,
ah oui,
nous devenons
Europe, c'est parce que dans
une Église.
Du Sud, c'est pas pareil.
Je ne sais plus quelle
de
est.
De qualité, osons dire.
Voilà, de qualité. De
il n'y en
qualité.
A pas beaucoup, mais de bonne qualité.
De qualité. Il y a beaucoup moins de chrétiens, mais il faut que ce soit des chrétiens qui se voient à 50 mètres, quoi. Et ça, c'est un de nos défis, parce que 10 chrétiens dans une grande église, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Alors, 10 chrétiens à l'extérieur, ça peut agir considérablement, ça peut témoigner, ça peut apporter du bien, du soulagement à tous les autres, ça peut faire connaître le Christ et ça peut aider à le découvrir. Et donc ça, c'est essentiel. Mais pour en revenir à la question qui nous préoccupe et qui est le maintien de ce patrimoine richissime, c'est vrai que plus il y a un grand nombre de personnes qui s'y intéressent, moins il est menacé. Et je ne suis pas certain que dans les décades qui viennent, il y ait un grand nombre de personnes qui continuent de s'y intéresser, hélas.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission Ouvrons le débat. Nous sommes en train de réfléchir sur la préservation du patrimoine religieux, que ce soit les bâtiments ou la foi. Oui, mais il y a presque, comme vous disiez, la question de sauvegarder le patrimoine qui prend le dessus, mais je dirais le patrimoine de la foi est à sauvegarder aussi. Parce que dans la première émission, Mme Lagier avait employé un mot que je n'ai pas relevé, mais qui m'avait frappé, apostasie. Et je trouve le mot très fort, parce que ce n'est pas forcément... Dans l'apostasie, moi, je sens que vous disiez quelque chose de volontaire. On renie sa foi dans l'apostasie.
Non,
c'est plus l'oubli.
Apostasie, c'est dans l'esprit apocalyptique. Quand le Christ lui-même dit « Est-ce que quand je reviendrai, on me connaîtra encore ?»
Oui, c'est plus une question d'oubli.
C'est un fait. Si vous avez sur 30 élèves, deux qui savent encore qui est le Christ et les autres disent qui est le type sur la croix, là, c'est assez inquiétant.
Mais c'est
nous sommes terre de mission. Nous sommes terre de mission
donc,
en
dis,
Europe.
Le premier patrimoine à sauvegarder, c'est celui de la foi. Donc, il faut se servir de toutes
le
ces richesses
de la foi, oui.
matérielles pour entretenir la foi. Alors, par exemple, l'histoire sainte de la cathédrale, elle est partout. Enseigner l'histoire sainte par les vitraux.
Oui, mais c'est à la famille de le faire d'abord.
C'est à la famille de
à
le
la
faire.
Famille d'abord.
Il n'y a pas de formateur. C'est dommage, je trouve
Le formateur, le premier formateur autrefois, c'était le curé de l'école du village qui faisait
oui,
le catéchisme.
Mais est-ce que le père Aubert, par exemple, va circuler dans la cathédrale pour enseigner l'histoire sainte?
Oh, il a beaucoup d'autres choses à faire.
Donc voilà, il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui...
Mais rendons hommage aussi aux professeurs dans les écoles laïques, qui font un grand effort de transmission, non seulement d'un savoir historique quelconque, mais aussi d'une transmission du fait religieux, de l'histoire du fait religieux. C'est important. Les enfants peuvent ainsi, dans le cadre de l'école laïque et républicaine, se voir rappeler l'existence du christianisme et puis d'autres religions. Et ces professeurs font un grand effort de connaissance et ils font des visites de la cathédrale à leurs élèves. Ils leur expliquent beaucoup de choses importantes et... Ça va en parallèle avec d'autres enseignements sur d'autres religions, mais c'est aujourd'hui
mais
l'école qui... Oui, évidemment, les familles abdiquent un peu.
Alors, je crois qu'il familles. Faut aussi un peu de volonté personnelle, parce que le drame, je crois, actuel, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ou de personnes qui se désintéressent de toutes ces choses-là. Et c'est quand même dommage, parce que ça fait partie de l'équilibre de la vie, ça fait partie philosophiquement, c'est quand même un idéal qui satisfait les personnes. Si on ne recherche rien, si on vit en se désintéressant de tout, et notamment de tout ce qui est la partie philosophique et religieuse, je trouve qu'il manque quelque chose à l'homme. On ne peut pas être épanoui si on n'a pas une volonté d'accéder à quelque chose de supérieur. L'homme n'est pas, comme je discutais l'autre jour avec quelqu'un, n'est pas qu'un animal. On n'est pas sur Terre que pour vivre 100 ans et puis plus rien du tout après. On a quand même cette richesse d'avoir une éternité devant nous. Il faut quand même qu'on s'en occupe et qu'on s'y intéresse. Et il y a une recherche à faire personnelle. Je crois que c'est important aussi que de temps en temps, on se dise, on aille se promener un peu et réfléchir, parce qu'on est trop pris par le mouvement perpétuel actuel qui nous entraîne de tout en tout, et on n'a pas la volonté de prendre un peu de temps de réflexion. Et je crois que le calme et la réflexion, ça peut aider à avancer dans le domaine religieux et philosophique, qui est très important.
Et quel est le rôle des familles là-dedans, justement?
Les familles sont chargées justement de transmettre un peu cette volonté de s'accrocher aux choses solides, sérieuses, de transmettre les valeurs qui sont importantes. Une recherche de valeurs, c'est quand même ce qui vous aide à vivre, et si on ne peut pas vivre sans valeurs. Donc il y a un choix de valeurs, et dans ces valeurs, je crois que les parents et la transmission familiale est très importante, parce que si on n'offre pas et si on n'habitue pas nos enfants à s'intéresser, à développer leur recherche de valeurs, ben justement, ils s'en désintéressent et tout dégringole. Il faut conserver...
Il faut témoigner de tout ça, en tout cas.
Témoigner et puis admettre que le fait d'avoir recherché et trouvé des solutions auparavant, avant nous, hein, par nos parents, nos grands-parents, etc., on peut utiliser ce qu'ils nous apportent et non pas considérer qu'on est les seuls à faire son bonheur. Il faut utiliser ce qu'on nous apporte, c'est toujours positif.
Est-ce qu'il y a Je pense à ce qui a été proposé par le Chemin Neuf, des méditations quand même. Il propose des parcours de méditation dans la cathédrale. Est-ce qu'il y a des lieux, vous connaissez des lieux qui ont été réinvestis pour la spiritualité, comme lieu de prière, même s'il n'y a pas de messe, même s'il n'y a pas de...
Des retraites, toujours possible.
Je crois qu'il y a un regain d'intérêt pour des pèlerinages. J'ai l'exemple des pèlerinages des pères de famille qui étaient bien renés à Cotignac il y a quelques années déjà, et qui a tendance à se multiplier, puisque je sais qu'il y en a eu pendant plusieurs années, et ça continue en se développant à Vézelay, et depuis un an ou deux, au Mont-Saint-Michel. Et voilà un exemple absolument inattendu. On m'a parlé de cadres de grandes sociétés parisiennes qui mènent la vie que vous pouvez imaginer, à 7h du matin au bureau, encore à 11h du soir, deux portables dans la poche plus une tablette entre les mains, avec deux téléphones avant, et qui laissent tout tomber pendant 48 heures pour aller marcher, méditer et réciter le chapelet. C'est quand même impressionnant.
Oui. Donc le besoin va pousser.
Le pèlerinage, je pense, est quelque chose qui, dans notre monde actuel, a l'air de susciter de l'intérêt.
Et à propos de pèlerinage, je crois qu'il faut rappeler que Chartres est quand même un des lieux principaux des pèlerinages en France. Et on constate, nous qui sommes chartrains, que chaque année, au moment de la Pentecôte, on voit arriver des milliers de jeunes enthousiastes qui sont vraiment sympathiques à voir, et on sent qu'ils sont sains, c'est ça l'important. Ils viennent de Paris à pied, comme Peggy, ils font plus de 100 km pendant 3 jours, et je vous assure, moi j'ai mes petits-enfants qui le font, etc. Ils sont fatigués, mais vraiment heureux, et ce pèlerinage est très porteur, parce que c'est dans une ambiance saine, chrétienne. Je crois que tout le monde prie, tout le monde apprend à vivre les uns avec les autres, et c'est vraiment, je conseille moi à tous les jeunes qui veulent avoir une expérience un peu de spiritualité et entraîné par des gens qui sont sympathiques et qui peuvent leur apprendre à prier. Je crois que c'est important d'utiliser ces pèlerinages, effectivement, pour se former et qu'on peut en tirer un grand profit spirituellement.
Le bâtiment devient finalement un lieu d'accueil, un lieu de rencontre.
Moi, j'ai des souvenirs de la cathédrale quand je faisais le pèlerinage de Chartres. Il n'y a plus une chaise, il n'y a plus rien. On est tous assis par terre, calés sur les genoux de celui qui est derrière.
Il y a 8 à 10 000 jeunes qui chantent.
C'est extraordinaire.
C'est magnifique. C'est une expérience à voir avec des bannières. Et je vous assure que C'est ce fait que ce soit sain et priant qui est vraiment remarquable. Ouais. Et ça, ça vous regonfle. Et ça, c'est enthousiasmant, je crois, pour tous ceux qui croient qu'on est en déclin et que les chrétiens n'existent plus. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de foi et qui le manifestent, justement, par toutes ces réunions ensemble. Et c'est assez porteur, à mon avis. Ça se développe d'ailleurs bien et c'est très positif. Ah bah,
de toute façon, le christianisme est en déclin ici, mais si vous prenez les autres continents, c'est pas du tout en déclin. Donc, et ce sont des vagues, comme l'un de vous disait au début de...
C'est comme les sœurs de Saint-Paul de Chartres.
Il y a plus d'un milliard de chrétiens dans le monde.
Oui, et puis effectivement, il y a une foi vivante.
Les sœurs de Chartres ont comme symbole, comme blason, 4 épis de blé. Je le sais parce que c'est une de nos ancêtres qui faisait partie de la congrégation au départ et qui a aidé à créer cet ordre, voilà. Okay. Et donc ces 4 épis de blé représentent, en fait, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, 1000 bonnes sœurs. Donc il y a en permanence 4000 bonnes sœurs depuis 300 ou 400 ans, je crois qu'elles existent. Et ce qui est amusant, c'est de voir que ça tourne, ça passe d'un continent à l'autre. Ça a été en Europe pendant longtemps, il y a eu beaucoup de sœurs européennes. Et maintenant il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a des Africaines. Ça tourne pendant des siècles, mais il y a toujours leurs 4000 bonnes sœurs sur le monde. Donc le christianisme, c'est un peu ce symbole-là. Ça peut faiblir sur un continent, mais ça se développe sur d'autres. Et il y a toujours cette
question
puissance.
Est quand même des conflits maintenant armés qui détruisent beaucoup de choses humains et patrimoine. Et donc ça demande un autre état d'esprit.
Il y aura une lutte des religions, à mon avis, un jour
peut-être
ou l'autre.
Peut-être pas. Les trois grandes religions. Il faut prier, comme dit Madame Lagier. Il faut pas partir avec cette idée-là, mais apprendre à se resituer dans la paix et enraciner dans le patrimoine et dans la foi. Malheureusement, je crois que nous avons épuisé notre temps d'antenne pour ce débat. Donc, je vous remercie tous les trois pour votre contribution. On n'aura pas fait le tour de tous les problèmes, mais déjà, on a déjà bien examiné. Donc, je vous dis, chers auditeurs, à très bientôt pour un autre débat. Au revoir.
Au revoir.